Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40, vous écoutez France Inter et c'est vraiment une bonne idée.
Vous êtes en direct, allez-y.
Ce que vous allez voir ce soir dans Envoyé spécial vous apportera autant d'espoir que de vertige. Est-on en train d'inventer des comprimés chimiques pour oublier? Peut-on manipuler à loisir la mémoire non pas d'un individu mais d'une population entière grâce à un traitement standardisé? À chaque séquence du reportage de France 2, les questions surgissent. Vous y suivrez le protocole passionnant auquel se sont soumis volontairement 120 survivants des attentats de Paris et de Nice. Ce souvenir est pour eux invivable. Un médicament va leur être proposé afin de modifier, d'atténuer, de rendre supportable la réminiscence de ce qu'ils ont vécu. C'est une première mondiale à cette échelle.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Alain Brunet.
Bonjour Madame de Villers.
Alors, vous êtes donc professeur, vous nous arrivez de Montréal, vous vous êtes proposé de vous-même à l'assistance publique française à la suite des attentats qui ont eu lieu en France et auxquels vous aviez assisté au loin de l'autre côté de l'Atlantique. Vous travaillez depuis très longtemps sur ces sujets. Oui. Voilà, vous les avez testés, on va y revenir petit à petit sur différents groupes de population et surtout sur différents symptômes et sur différents types de traumatismes qui auraient pu engendrer ces symptômes. Le film est tourné à la fois à la Salpêtrière, la Pitié-Salpêtrière à Paris et au CHU de Nice. Il faut savoir que cette expérience que vous menez, elle est dans 19 hôpitaux en France. Bonjour Perrine Bonnet.
Bonjour Sonia.
Ce film, c'est vous qui l'avez tourné pour Envoyé spécial. Qui a été le plus difficile à convaincre de la présence de votre caméra, de votre présence aussi humaine, de votre regard à vous? Est-ce que ça a été le professeur Brunet? Est-ce que ça a été l'assistance publique? Est-ce que ça a été les patients?
Tout le monde.
Tout le monde?
Oui, c'était un processus assez long. On a lu, nous, un entrefilé en janvier 2016. Ma rédactrice en chef, Séverine Lebrun, avait repéré ce petit entrefilet qui annonçait le démarrage donc de cette étude au printemps 2016. Donc on a contacté l'assistance publique des hôpitaux de Paris au printemps 2016. La première réaction, on s'y attendait, ça a été de nous dire non.
Non, évidemment.
Voilà, impossible de tourner un essai clinique, impossible de tourner auprès de personnes aussi en situation de fragilité extrême. Donc on a insisté, on a mis en avant le fait qu'on pouvait faire un projet au long cours, qu'on avait aussi un dispositif léger qui permettait qu'on assiste à ces séances, mais sans intervenir en fait évidemment.
Alors ces séances, justement, on va les revivre ensemble.
Au départ, la consigne c'était de flouter tous les patients qu'on allait suivre, ce qui était pour nous rédhibitoire.
Rédhibitoire parce que je pense que vous captez énormément de choses dans le de ces patients. Et je précise aussi que c'est un envoyé spécial qui est particulièrement travaillé sur la forme et qui est très travaillé parce que mettre en scène le retour d'un souvenir, le retour de la mémoire,
c'est exactement ça. Vous pouvez imaginer que il fallait raconter quelque chose qui est parfaitement intérieur, montrer un souvenir sur des visages qui auraient été floutés,
c'était totalement impossible. Alors je vous propose un petit tour d'actualité des médias et puis on va se plonger dans ce sujet complexe et passionnant. La saison 2018 sera celle du retour de la Formule 1 sur TF1. Et oui, comme quand on était petit, c'est dimanche après-midi à mourir d'ennui. Enfin, les amateurs apprécieront, c'est sûr. Le contrat demeure dans l'escarcelle de Canal+, mais 4 grands prix, dont celui de Monaco, ont été rétrocédés à TF1 pour une diffusion en clair. Je vous invite à lire l'interview fleuve de Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions. Elle est publiée dans le magazine Society. Il y a deux France, explique-t-elle. La France urbaine, favorisée, qui ne regarde quasiment plus la télé. Et l'autre, une France périphérique. Manifestement, c'est à cette deuxième France-là que s'adresse désormais l'audiovisuel public. Première référence de Madame Ernotte.
Vous êtes des amours et je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup de bonheur. Merci. Merci ma chérie. Au revoir mon chéri d'amour.
C'est Cyril Hanouna dont elle salue la capacité à parler, je cite, carrément aux gens, talent que moi aussi, hein, je reconnais à Cyril Hanouna, mais je m'attendais pas à le trouver en tête de gondole des objectifs de France Télé, qui néanmoins se rassure. Hein. Nous, on a Michel Drucker, se félicite Delphine Ernotte, dont on se demande un peu quelle est l'ambition. Sinon, la petite phrase sur David Pujadas qu'elle a virée du 20h, elle ne vous échappera pas, je cite, il était choqué, furieux, c'est quand même une femme qui a dit à l'un de ses employés, homme, trois petits points. Voilà comment, l'air de rien, accuser quelqu'un de sexisme, David Pujadas en l'occurrence. Voilà, ça c'était pour la petite revue de presse du jour. On se penche donc sur l'un des programmes de France 2 ce soir, envoyé spécial, victime des attentats, un comprimé pour oublier. Et je précise que un comprimé pour oublier, c'est un point d'interrogation. Et évidemment, ce point d'interrogation est majeur. Je vous fais écouter ce que raconte Lou. Elle a 27 ans, elle était analyste financière. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'est une fille costaud, solide, elle est marathonienne. Voilà ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle était au Bataclan.
En fait, j'ai beaucoup d'images dans la tête. Par exemple, quand je vais dans un magasin, c'est vrai que je visualise souvent les gens avec, dans des mares de sang ou avec. J'ai vraiment des images gore qui me viennent en tête. C'est quelque chose qui me demande beaucoup de force mentale, alors que ce sont des choses parfaitement anodines.
Professeur Alain Brunet, la science est-elle en mesure d'expliquer pourquoi 15% entre 10 et 20% des personnes qui ont été exposées à un choc traumatique subissent ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi les uns et pas les autres ?
Bien sûr, on a des pistes de réponse, mais la science est encore très imparfaite. On n'est pas capable de prédire qui va développer un trouble de stress post-traumatique et qui ne le développera pas. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'on a dans notre trousse d'outils plusieurs modalités d'intervention pour aider les gens qui développent un stress post-traumatique, certaines plus classiques et d'autres plus innovantes.
Voilà, parce que je précise que Lou était accompagné de son petit copain le soir du Bataclan, Hans a pris 2 balles dans le corps et qu'il est pourtant aujourd'hui psychologiquement moins blessé qu'elle ne l'est elle. À chaque patient que vous recevez et que vous admettez dans votre protocole, vous faites remplir un tableau extrêmement précis, tout est évalué, les cauchemars, les réminiscences, les flashbacks. On écoute Emmanuel que vous suivez, elle, à Nice.
Est-ce que vous vous sentiez particulièrement mal psychologiquement de manière prolongée lorsque vous êtes en présence d'indices, d'éléments qui vous rappellent cet événement ?
Oui. C'est le nœud dans la gorge, mal au ventre. Ouais. Souvent après, c'est le mal de tête.
D'accord. Le cœur qui bat.
Les palpitations, ouais. Voilà, c'est sueur, envie de pleurer.
Par rapport au sommeil ?
Toujours des cauchemars.
Toujours des cauchemars.
Des insomnies, voilà.
Des difficultés à vous endormir ?
Oui.
Ok.
Emmanuel, hein, qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus supporter de vivre dans un lieu public et qui, évidemment, a la vision d'un camion, est tenté par le bruit, elle le dit très bien, le bruit qu'elle a entendu, celui des corps heurtant le camion tueur de Nice. Alors, professeur Alain Brunet, pour être admis dans ce protocole, pour être admis dans cet essai clinique, il vous faut d'abord vérifier que les gens à qui vous avez affaire souffrent bien de symptômes qui sont dus à un souvenir et un seul, celui de l'attentat qu'ils ont vécu, que auparavant ils n'étaient pas en état de dépression chronique ou de malaise profond.
Exactement. On a des outils très simples, mais à la fois très précis, qui nous permettent de déterminer si une personne a vécu un événement traumatique et dans quelle mesure elle est symptomatique. Et au-delà d'un certain seuil, on considère que la personne souffre d'un état de stress post-traumatique ou d'un trouble.
C'est ça. Mais c'est un événement ponctuel. C'est ça qui est important.
Oui, c'est un événement ponctuel et on est assez nombreux dans la profession à considérer que l'état de stress post-traumatique émane d'un souvenir, en fait.
C'est ça.
Et qu'il y a probablement aussi toute une classe de troubles psychiatriques qui émanent d'un événement de vie et par la suite d'un souvenir.
Très bien. Alors, je voudrais que vous nous racontiez en quelques mots qu'est-ce que la reconsolidation de la mémoire. C'est important que tout le monde le comprenne. Et ensuite, quels médicaments vous avez choisi pour agir dessus ?
La reconsolidation, la meilleure façon de comprendre la reconsolidation, c'est d'abord de comprendre comment les souvenirs sont consolidés. Mm-hmm. Une nouvelle expérience va laisser une impression dans la mémoire à court terme, aussi appelée la mémoire de travail. Par la suite, cette expérience-là va être transférée dans la mémoire à long terme. C'est un processus qui prend de 2 à 5 heures. Et donc, ce processus, on l'appelle la consolidation du souvenir. Si le souvenir n'est pas consolidé, il va être perdu. Par exemple, si je vous communique une information anodine et qu'on continue de parler, vous allez l'oublier mm-hmm. parce qu'elle n'aura pas été consolidée. La reconsolidation, c'est la découverte chez l'animal il y a 20 ans ou la redécouverte à cette époque-là que quand on accède à un souvenir, il doit être consolidé de nouveau. Et de la même manière qu'on peut perdre un souvenir qui est non consolidé, on peut aussi interférer avec la reconsolidation d'un souvenir. Il y a 2 manières d'interférer. On peut interférer cognitivement avec de la distraction ou mm-hmm. Autrement. Et on peut aussi essayer d'interférer à l'aide d'un médicament ou chimiquement, si vous voulez. Et c'est cette interférence qu'on a, c'est cette capacité à interférer avec le souvenir qui
c'est
est devenue thérapeutique.
C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que on reconvoque un souvenir même ancien, à chaque fois qu'on le reconvoque, il faut que le cerveau le réenregistre pour le réimprimer. Et vous allez bloquer finalement ce moment où on réenregistre le souvenir. Vous allez le bloquer chimiquement, mécaniquement, grâce à ce médicament qui s'appelle le propranolol, qui à la base est un régulateur cardiaque qui existe depuis très longtemps. Donc, en qui vous avez toute confiance en matière d'effets secondaires, je veux dire.
Tout à fait, c'est un vieux médicament génériqué. Et en fait, on se trouve à utiliser une propriété qui était qui avait été peu utilisée de ce médicament-là. Mm-hmm. Mais je mentionne que c'est vraiment ce médicament est le meilleur bloqueur de la reconsolidation qu'on ait actuellement sous la main.
Sous la main.
D'autres existent, mais celui-là, il est particulièrement bien.
Donc, je décris la façon dont ça se passe. 6 séances. À chaque séance est associé le récit du souvenir, le récit du drame. Hein. Chaque patient a écrit de manière méthodique à la main sur une feuille de papier ce qu'il a vécu. Il faut le lui lire à voix haute devant l'équipe médicale et à chaque fois qu'il lit à voix haute, il ingère ce médicament.
Voilà,
donc au moment où on reconvoque, on bloque avec le médicament. Et pour vous, l'idée c'est de suivre comment au fur et à mesure des séances, le souvenir diminue, s'atténue et fragilisé, c'est ça ?
Particulièrement sa dimension émotionnelle, parce que comment on s'est senti au moment d'un événement, mm-hmm. ça aussi c'est une mémoire, c'est un souvenir aussi. Et quand on se remémore un événement, l'émotion nous revient. Mm-hmm. Si vous vous remémorez le jour de votre mariage, une certaine émotion qui vous revient. C'est la même chose en ce qui concerne le trauma. Et à chaque séance, c'est comme si on enlevait une fine couche de cette émotion, de cette émotionnalité. Et l'objectif du traitement, c'est de transformer un souvenir d'intensité traumatique en banal mauvais souvenir.
Voilà. Et là, il y a une grande différence entre transformer un souvenir traumatique en banal mauvais souvenir et effacer un souvenir.
Absolument.
On écoute Max, justement, qui a un avis très précis sur la question.
Je n'ai plus ce film dans ma tête qui était toujours en boucle jour et nuit. S'il n'y aura pas eu ce traitement, je pense que j'aurais fait une grosse bêtise. Parce que j'avais envisagé de me foutre en l'air. Parce que voir toutes ces personnes qui sont parties, ça m'a mis vraiment plus bas, très très bas.
Et il le dit après. Lui, il dit, toutes ces personnes qui sont parties, elles font partie de ma vie. Et je ne voulais pas les oublier. Je ne voulais pas les effacer. Je ne voulais pas les oublier.
Absolument.
Et c'est là où, évidemment, vos pratiques peuvent faire peur, peuvent poser énormément de questions. C'est là où on s'interroge vraiment sur la limite de ce type de démarche,
Absolument,
professeur
mais
Brunet.
C'est pour ça que le projet s'appelle Paris Mémoire Vive. Le but, ce n'est pas d'effacer les souvenirs. Le but, c'est d'atténuer la force du souvenir. Mm-hmm. Mais c'est vrai que parfois, on associe ce qu'on fait avec l'effacement de certains souvenirs. Il y a une confusion peut-être qui émane de la recherche qui était au départ une recherche animale. Et vous savez, on peut pas demander à un animal s'il se souvient pourquoi il se comporte d'une certaine manière. Donc effectivement,
Perrine Brunet, vous avez choisi de ne pas occulter les questions justement dans ce film, les questions éthiques que ça soulève. Vous signalez même qu'une équipe américaine au MIT va beaucoup plus loin que le professeur Brunet aujourd'hui. Et en même temps, vous ne cherchez pas non plus à faire l'état des lieux de la communauté scientifique. On ne sait pas si le professeur Brunet est très décrié, s'il a des ennemis, s'il y a une bataille, ou si au contraire il y a consensus sur ces traitements.
Nous, on voulait raconter une expérience scientifique qui résonnait évidemment fortement avec l'actualité. Mm-hmm. C'est vraiment ça la motivation première. Et on ne s'est pas porté juge en fait sur cette méthode. C'est-à-dire que le reportage ne dit pas finalement ça marche pas. D'ailleurs, c'est un essai clinique dont on n'a pas encore les résultats. Donc nous, ce qui nous intéressait,
c'était... Vous allez suivre des patients sur lesquels ça marchera de manière même très spectaculaire, ouais. Et d'autres sur lesquels ça ne marchera pas.
Ouais. Et d'ailleurs, on a la chance finalement d'avoir un pourcentage finalement de réussite dans le reportage qui correspond à peu près aux précédentes publications d'Alain Brunet. Bon, ça c'est le
hasard des personnages que vous avez rencontré. Professeur Brunet, on se demande si la chose la plus difficile à maîtriser en fait dans votre démarche, ce n'est pas la façon dont on reconvoque le souvenir. On voit bien que le médicament est très bien maîtrisé, que les étapes de reconsolidation de la mémoire aussi, mais finalement la séance avec le médecin, la façon dont elle va se dérouler, la façon dont on va faire parler le patient, est-ce que là on n'est pas dans une sorte de flou d'humain à humain et que d'une séance à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, et bien justement, votre démarche peut se modifier, peut se transformer.
Écoutez, moi, dans ce que je fais, tout me paraît relativement facile. C'est pas une difficulté particulière pour moi. Au contraire, je trouve que c'est une méthode qui est particulièrement facile à enseigner.
C'est ça, parce que vous avez formé beaucoup de gens en France, se sont. Alors, les patients se sont portés volontaires, mais les soignants se sont portés également volontaires pour y participer.
Et j'en profite pour mentionner mon collègue Bruno Millet, porteur du projet ici à la PHP, à la Salpêtrière.
À la Pitié-Salpêtrière.
Un collègue. Très important pour la réalisation du projet, le porteur du projet ici, en France. C'est assez facile et justement, c'était la beauté du projet, c'est que ça rend le traitement d'une pathologie qui est complexe, ça le rend facile. C'est facile à enseigner, c'est facile à administrer. Et c'est pas, et peu importe comment on réactive le souvenir, ce qui compte, c'est que le souvenir soit suffisamment réactivé. C'est même pas nécessaire de tout dire ou de tout mentionner. Ce qui compte, c'est que le souvenir dans le cerveau soit bien réactivé. Et à ce moment-là, le traitement peut faire son effet. Donc, alors, c'est vraiment.
Vous avez travaillé avec des victimes d'agressions en tout genre. Vous avez travaillé avec des victimes d'accidents de la route. Et on peut imaginer que l'application d'un tel protocole peut s'élargir, évidemment, très au-delà.
Tout à fait. On a travaillé aussi avec des toxicomanes qui cherchaient à arrêter de consommer. On a travaillé aussi avec des gens qui ont vécu une trahison amoureuse. En fait, ça ouvre la porte à... En fait, ce qu'on traite, c'est pas une pathologie, c'est un souvenir.
C'est un souvenir.
Et donc, ça ouvre la porte à toutes les pathologies qui émanent d'un souvenir.
D'un souvenir. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir fait ce détour par France Inter. Alors, ce soir, envoyé spécial, France 2, victime d'attentat, un comprimé pour oublier, je rappelle, le point d'interrogation. Je donne également, professeur, le numéro de téléphone de Paris Mémoire Vive. C'est le 01 42 16 15 35. C'est une boîte vocale confidentielle qui vous y attend. Et ensuite, vous seront proposés toutes sortes de prises en charge si vous aussi, vous avez vécu ces drames absolument effroyables.